Comme il a été mentionné aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font, qui se disent sur Internet. Pourtant, on le sait, hein, faut pas prendre Internet pour du cash. Mais là, savez-vous quoi? C'est rendu difficile avec l'intelligence artificielle. Tu regardes une vidéo, puis tu te dis, ben, c'est une vraie vidéo. Mais non, c'est l'intelligence artificielle. Alors, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est sûr qu'il faut pas prendre ça pour du cash. C'est encore plus vrai. Ayant dit ceci, après avoir dénigré l'intelligence artificielle, je vais vous dire ce que j'ai posé deux questions à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'interprétation littérale de la Bible? Je vais vous donner la réponse, intelligence artificielle Google. L'interprétation littérale de la Bible consiste à comprendre le texte selon le sens clair que les mots véhiculent en respectant la grammaire, le contexte historique et l'intention originelle de l'auteur. Contrairement à une idée reçue, l'approche littérale ne signifie pas ignorer les figures de style ou le genre littéraire, comme la poésie ou les paraboles. Elle cherche plutôt à saisir ce que l'auteur a voulu communiquer réellement à son public premier. C'est bon? La deuxième question que j'ai posée, peut-on ou doit-on interpréter la Bible littéralement? Êtes-vous curieux de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle a répondu? Non seulement nous pouvons, mais nous devons prendre la Bible au pied de la lettre. Une interprétation littérale est la seule qui nous permet de déterminer ce que Dieu cherche à nous communiquer. Comme pour n'importe quel autre écrit, nous devons déterminer ce que l'auteur a voulu communiquer. Nombreux sont ceux qui prennent un verset ou un passage des Écritures, puis interprètent les mots, expressions et paragraphes à leur manière, en ignorant le contexte et l'intention de l'auteur. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est pourquoi il nous demande d'interpréter correctement la parole de vérité dans 2 Timothée 2,15. On va y revenir à ce verset-là. Bon, il y avait quatre autres paragraphes, mais déjà, on a parlé de l'importance. Parce que, j'allais dire ce matin, mais on est l'après-midi. Ce que le Seigneur m'a donné à cœur, c'est de parler des dispensations. Mais en commençant, déjà des frères ont commenté, qu'est-ce que ça veut dire, dispensation? S'il y a deux choses que je voudrais, il y a une première chose que je voudrais que vous rappeliez de ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'une dispensation, ce n'est pas une période de temps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une période de temps. Alors, il y a quelques passages que j'aimerais qu'on tourne, vers lesquels on tourne. Premièrement, dans 1 Corinthiens chapitre 9 et au verset 17, comme il a été mentionné, dispensation, ça vient de... Est-ce que je veux le dire? Oikonomia. D'habitude, j'essaie de m'en rappeler parce que ça ressemble tellement à notre mot français économie, duquel le mot vient. Le français économie vient du mot grec oikonomia. Alors, Paul écrit ici, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge. Il y a là le mot oikonomia ou dispensation qui m'est confiée. Alors c'est quelque chose qui a été confié à l'apôtre Paul. Alors, comme il a été mentionné, des fois, oikonomia est traduit dispensation. Ici, il est traduit charge dans la Louis II. Des fois, c'est administration ou économie directement. Prochain verset. Colossiens 1, verset 25. Colossiens 1, verset 25. J'ai jusqu'à quelle heure? OK. Ça, c'est la bonne heure en arrière?
Oui.
OK. Ça va bien. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge, encore le mot charge, oikonomia, et remarquez ici que Dieu m'a donné. Oh, je ne sais pas si ça va marcher. Oui. On va s'essayer. Quand même assez bien dans ma main. Je sais pas si. Ça. On devrait demander au Seigneur. Seigneur, mets ta main. OK, 1, 2, 1, 2, je peux l'approcher. OK, si je l'approche comme ça. Alors, Dieu m'a donné. Encore, c'est quelque chose qui est confié à l'apôtre Paul. Et on va voir ça, les dispensations dans l'histoire. C'est exactement ça, quelque chose de nouveau qu'on va voir, qui est associé au temps, mais qui ne représente pas du temps. Mais c'est une responsabilité, c'est une charge, c'est quelque chose de nouveau qui est donné à l'homme à dispenser droitement et à, duquel ils doivent être des intendants. Alors, c'est le premier point que vous vous rappelez de ça, c'est quoi une dispensation? C'est associé à une période de temps, mais c'est pas du temps. L'autre verset qu'on a eu dans notre invitation, dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10, je peux vous lire ce passage aussi. En passant, notre frère nous a gardés réveillés dans le pire temps après le repas comme ça. Mais juste pour que vous soyez sur vos gardes, là, si j'en vois un qui dorme, c'est lui qui va venir lire les versets. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, au verset 9, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lors des temps, lorsque les temps seraient accomplis. C'est plus difficile dans ce verset-là de voir, il est où le mot oikonomia, mais il est là. On le voit dans d'autres versets plus clairement, peut-être, dans d'autres versions plutôt plus clairement. Dans la Bible Sommaire, c'est marqué « pour l'exécuter dans l'économie de l'accomplissement des temps ». On le voit là, « économie »,« economia ». Alors, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après. Et cette partie-là, le conseil de sa volonté. Afin que, lorsque les temps seraient accomplis, ils réunissent toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous avons aussi été choisis, ayant été prédestinés selon, et je veux souligner ça ici, le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le dessein éternel de Dieu ne change jamais. Là, je fais court parce que je dois avouer que je trouvais le sujet de la conférence plutôt audacieuse parce qu'en une journée, de couvrir les dispensations, c'est quand même audacieux. Donc, mais le Seigneur est capable et il travaille comme notre frère nous a rappelé, c'est lui qui agit. Et puis, il fait bien les choses. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est donner, si vous regardez la feuille, la partie jaune à gauche, le dessein éternel. Alors, Éphésiens 3, 11, le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est dans l'éternité, par Jésus-Christ, que ça s'accomplit à travers les âges. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est que, comme notre frère Gérald mentionnait, la révélation progressive de Dieu, mais aussi on voit que le Seigneur a donné des responsabilités, des nouvelles dispensations, dans le sens, si dans ma tête, je pense à une distributrice automatique, là, qui dispense des produits, ben, ça a été donné à l'homme d'en être des intendants. Le Seigneur a donné des choses à l'homme pour qu'il en soit des intendants. Et on va voir que l'homme a un choix. Puis la deuxième chose que je veux vous faire voir, que concernant ces dispensations-là, ce que je vous ai donné entre vos mains, ça le rend quand même peut-être plus facilement que d'autres cartes qu'on pourrait voir. Les autres cartes sont peut-être plus détaillées, puis c'est très bien d'avoir beaucoup de détails sur nos cartes, mais des fois on peut avoir l'impression que une dispensation commence et elle se termine, et puis que l'autre commence puis elle se termine. Alors ce que j'aimerais suggérer, c'est que on voit à travers la parole de Dieu que quand le Seigneur donne une responsabilité, que ce soit de faire un choix, comme on va voir tout à l'heure, puis on va voir la première dispensation plus en détail tantôt, mais je veux que vous voyez que c'est le même patron ou c'est le même cycle qu'on va voir. Si vous voyez l'encadré en noir en bas à gauche, alors, si on passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, disons, comme le mentionné, il y a d'autres façons de le diviser des fois, mais disons que c'est les sept principales. Il y en a qui, comme mentionné, ils vont dire, ben, je ne suis pas dispensationaliste. Mais ce que je vous montre là, c'est que si vous ne croyez pas que Dieu a donné à Adam une responsabilité, ben, vous ne croyez pas à la Bible. Si vous ne croyez pas que Dieu a fait une promesse à Abraham, ben, vous ne croyez pas la Bible. Si vous ne croyez pas que Dieu a donné la loi à Israël par Moïse, ben, c'est parce que vous ne croyez pas la Bible. Ce n'est pas un système d'interprétation qu'on est en train de regarder présentement. C'est une constatation. On regarde ce que la Bible dit, puis si vous le regardez littéralement, là, ben, ça va toujours vous donner quelque chose comme ceci. Si vous y ajoutez quelque chose, un carcan d'interprétation, ben, ça va donner quelque chose de différent. Mais ce que je veux démontrer, c'est que il y a une manière, puis ça, je crois, comme ça a été mentionné aussi, Dieu veut se révéler à nous. Comment est-ce qu'il est Dieu? Comment est-ce qu'il agit? Pourquoi? Ben, à travers les dispensations, ça nous est révélé. Et puis, les choses évoluent, c'est dans le sens que à chaque nouvelle chose que Dieu donne à l'homme à être un intendant, Dieu montre quelque chose de nouveau ou particulier de sa personne. Et puis, aussi, ça révèle l'incapacité de l'homme d'obéir ou de la faillite de l'homme. Comme mentionné, nouvelle responsabilité dispensée par Dieu, puis ça va être toujours le même cycle. Nouvelle responsabilité dispensée par Dieu à l'homme, échec de l'homme, jugement. Mais heureusement, jugement, c'est pas la dernière chose. Ça finit pas toujours par un jugement. Ça finit toujours par la grâce de Dieu pour continuer. Puis on va le voir à chaque dispensation, la grâce de Dieu pour continuer. C'est merveilleux quand on regarde chapitre. On va regarder la première, mais je vous laisse la feuille entre les mains pour que vous puissiez voir que pour toutes les dispensations, ça continue. Si on regarde la loi, est-ce que la loi s'est terminée avec le Seigneur Jésus? Non, je ne suis pas venu, qu'est-ce qu'il a dit? Abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais on peut regarder chaque dispensation de cette façon-là. Bon, le temps, il a quand même passé un peu. Mais c'est important, efforce-toi comme on a vu dans ce que l'intelligence artificielle nous a cité, la référence 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qu'il n'est point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La vérité, elle doit être utilisée pas n'importe comment, précisément, de la bonne façon. Et puis, on voit que le Seigneur, à travers l'histoire, il a dispensé des responsabilités à l'homme. Un peu comme je comparais dans une famille, quand que on a un bébé qui naît dans la famille, au début, il est à l'allaitement, puis on introduit quelque chose de nouveau. On arrête la bouteille, on donne de la nourriture plus solide. À un moment donné, il vieillit, puis on dit, ben là, maintenant, mon petit gars, t'as pas besoin que papa, maman soient là pour aller voir tes amis, tu peux y aller tout seul. À un autre moment donné, ben, il grandit, puis ça, c'est peut-être plus dur pour les papas, là. Mais ce qui arrive, c'est que, quoi que nous autres, nos garçons, ils ont acheté vite leur voiture, mais tu donnes les clés de tôt à ton enfant pour qu'il puisse avoir la voiture. Et puis, des nouvelles responsabilités lui sont données. À un moment donné, tu donnes la bénédiction pour qu'il est marié avec une jeune femme chrétienne. Et un jour, il a des enfants. Et puis, on voit que des nouvelles choses entrent dans la vie. C'est un peu comme ça que le Seigneur a agi à travers l'histoire avec l'homme. Alors, on va aller au commencement. On va y aller avec la première dispensation. Genèse 2 au verset 9. Alors, l'homme est créé à son image. Il n'y avait jamais, auparavant, il avait été question de quelque chose comme ça. L'homme créé à son image. Les végétaux, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. L'homme a été créé à son image. Puis Dieu, il choisit ses actions. Il a le choix. Il avance en faisant. Il a un but et puis il avance dans ce but. L'homme, on va voir qu'il a été créé à l'image de Dieu, donc il peut faire des choix. Et puis, les végétaux, ils n'ont pas le choix. Tu prends. Ce que l'arbre va être, c'est déjà dans la graine. Une graine de cerisier ne pourra pas dire, ben moi, j'aimerais ça être un pommier. Il n'a pas le choix. Il va être comme ça. Un zèbre, il ne pourrait pas dire, ben j'aimerais ça voler comme un oiseau. Non, il n'aura pas le choix. Il y a des instincts pour faire des choses, mais il y a juste l'homme qu'on va voir qui peut faire des choix. Donc, Genèse chapitre 2, verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, il y a des beaux arbres à regarder, bons au goût, bons à manger, sauf qu'on va voir qu'il y avait un arbre qu'il ne devait pas manger le fruit. Au verset 15 à 17, « L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Alors, il parle à un genre nouveau, à quelqu'un qui a été fait à son image. Et il dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, Dieu dit à l'homme, « Tu pourras manger librement, t'es libre. » Mais, regardez au verset 16, l'Éternel donna cet ordre. Tu pourras manger librement de tous les... Bon, les questions du libre arbitre ou du choix que l'homme a, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, un point que je voudrais amener, c'est que les arbres, ils étaient beaux. Les arbres, il y avait bon goût. Alors, ce n'était pas parce qu'il était beau, puis qu'il avait bon goût, puis qu'il pouvait ouvrir l'intelligence que c'était mal. C'était mal parce que Dieu avait demandé, tu ne mangeras pas de cet arbre. Ça me fait penser un peu aux relations sexuelles dans le mariage. Les relations sexuelles sont pas mal, mais hors du contexte du mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est là que ça devient une désobéissance puis mal. Alors Adam, est-ce qu'il pouvait dire non à Dieu? Est-ce que c'était possible pour lui de... On connaît tous l'histoire, hein? Oui, parce qu'effectivement, il a dit non à Dieu. Il a désobéi à Dieu, puis on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça ne voulait pas dire que c'était sans conséquence. Alors, pour faire une histoire courte, il a eu des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le jour même, il a été séparé de Dieu. On sait que plus tard dans le chapitre 5, 900 ans plus tard, il est mort physiquement aussi. Mais il y a des conséquences. Puis, on voit que, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Dieu a dû juger. On voit dans Genèse chapitre 3, verset 23, « Alors l'Éternel le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. » Verset 24, « Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui se tournait de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. » On sait que c'était en quelque sorte une miséricorde de Dieu. Imaginez-vous qu'Adam et Ève aient pu rester avec l'accès à l'arbre de vie. Ils auraient vécu éternellement dans l'état de péché. Mais le Seigneur, même dans son jugement, on voit qu'il était gracieux. Mais si vous regardez dans le tableau, on a vu la dispensation que Dieu a donnée de gérer un choix qui était devant eux. Ils avaient l'habileté de choisir, puis qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Ben, c'était eux qui choisissaient de choisir. Ils ont choisi de désobéir. Et après, la conséquence, le jugement de Dieu, la mort et la séparation. Mais on va voir la grâce de Dieu maintenant. Plus tard, voyons, c'est pas... C'est bon, j'ai pas le passage, mais où est-ce que... On voit enregistré dans la parole de Dieu la première mort, le premier sacrifice qui a été offert, où ce que Dieu a dû dépecer un animal et les recouvrir. OK, au verset, chapitre 3, verset 20. Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et voici, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, on voit jusqu'à un certain point la foi d'Adam. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Il avait la conviction que la vie n'arrêtait pas là, que Dieu allait permettre que la vie continue, puis qu'elle puisse avoir des enfants. Il l'a nommée la mère de tous les vivants. Même s'il n'est pas dans Hébreu comme héros de la foi, on voit que Adam avait exercé une certaine foi ici, en nommant sa femme. Et puis on a la première mort consignée. Alors, pour résumer, l'homme a été créé d'une manière unique, doté d'un libre arbitre. Il pouvait dire non à Dieu, mais il n'avait pas la permission de dire non. Dieu n'a pas dit, j'aimerais que tu dises non. Et il dit non, je ne veux pas que tu manges de ce fruit. Et puis, il n'y avait pas d'animaux, pas de végétaux, même la création, il n'y avait pas cette habilité-là de dire non ou de choisir. Comme nous, nous sommes uniques à son image. Nous sommes créés à son image. Et c'est le point que je voudrais souligner, c'est que encore aujourd'hui, on a cette habilité-là de choisir devant Dieu. Malgré le fait que même si on peut choisir, ça ne limite pas sa souveraineté. Psaume 115, verset 3 nous dit « Notre Dieu est dans les cieux. Tout ce qu'il a voulu, il est accompli. » J'aimerais faire un survol dans le temps qui me reste. Dans la parole de Dieu, où est-ce qu'on voit que cette dispensation-là de libre choix continue à travers la parole de Dieu? L'histoire du choix du roi Saül a été mentionnée ce matin, mais j'aimerais qu'on y retourne dans 1 Samuel au chapitre 8 et au verset 5. 1 Samuel, chapitre 8 et au verset 5. Premier Samuel, chapitre 8, au verset 5. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, en parlant à Samuel. » Et les fils et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez les autres nations. Alors, comme notre frère John l'a souligné ce matin, c'est en regardant autour d'eux qu'ils ont eu cette idée-là. On aimerait avoir un Dieu comme les autres. Ça a l'air à marcher pour eux autres. Ça devrait marcher pour nous autres, mais malheureusement, le problème, c'est que c'était Dieu qui était le président, directeur général des Juifs. Et puis, lui, il ne fonctionnait pas comme le monde. Puis, Dieu n'avait pas demandé, à ce moment-là, il n'avait pas dit, « Je veux que vous ayez un roi. » Et puis, mais Dieu, qu'est-ce qu'il répond au verset 7? « L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Il n'a jamais donné son accord, mais il le permet. Il le permet parce que c'est ça que les Juifs ont choisi, le peuple a choisi. Alors Dieu, il n'impose ni son amour, ni son autorité. Comme il a été mentionné ce matin aussi, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Tu ne peux pas dire à une fille, un homme ne peut pas dire à une fille, ben, tu dois m'aimer. Ça ne marche pas comme ça. C'est le cœur que Dieu veut atteindre. Et il dit à Samuel, écoute la voix du peuple. On va voir une autre histoire dans 1 Samuel chapitre 23. 1 Samuel chapitre 23, verset 9. L'histoire de la ville de Keïla. Histoire. 1 Samuel 23. David entend que Samuel a un complot, il en veut à la vie à David. David va se cacher dans une ville fortifiée de Keïla, qu'il vient de sauver des Philistins. David était le sauveur, en quelque sorte, les a sauvés des Philistins qui venaient pour les attaquer. Et puis, ils avaient dû rebrousser le chemin devant David. Mais David, il entend parler que Saül, il en veut à sa vie, puis il s'en vient à Keïla. Puis, il y a une question à poser au Seigneur. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Ça, c'était la manière qu'ils avaient de discerner la volonté de Dieu. Puis au verset 10, David dit, l'Éternel Dieu d'Israël, ton sauveur, apprend que... Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Au verset 11, les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Alors, il demande à Dieu, est-ce qu'ils vont vraiment faire ça? Je veux savoir, Saül, premièrement, est-ce qu'il va venir, comme j'ai entendu parler? Puis ensuite, il poursuit dans le verset, « Et l'Éternel répondit, il descendra. » Puis au verset 12, David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Alors, comme j'ai mentionné tantôt, c'est lui qui venait de les sauver. Est-ce que c'est vrai qu'ils vont me... Est-ce que Saül va venir, puis que le village, la ville va me livrer? L'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Une question. Est-ce qu'ils l'ont livré? Non. C'est jamais arrivé. Pourtant, c'était la parole du Seigneur. David avait choisi de croire. Puis il s'est enfui. C'est merveilleux. Le Seigneur sait aussi ce qui pourrait nous être réservé si on fait un autre choix. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de notre Dieu. Un Dieu qui non seulement connaît l'avenir, mais aussi qui connaît ce qui pourrait nous être réservé si on faisait un autre choix. C'est quand même spécial. Un autre exemple similaire dans Jonas, chapitre 1 et le verset 1. Dieu veut qu'un message soit prêché à Ninive. Puis il ne choisit pas n'importe qui. Jonas, il ne voulait même pas y aller. Il ne voulait même pas aller à Ninive. Puis encore moins être avalé par un poisson, je le dirais. Mais savez-vous quoi? Qui est-ce que les Ninivites adoraient? Dagon, le dieu poisson. C'est-tu un hasard que Jonas a dû passer par où ce qui est passé? Imagine les Ninivites qui voient un gros poisson qui crache un homme puis qui vient lui annoncer un message de Dieu. Non, c'est pas un... Mais juste pour vous dire, Dieu a un dessein. Puis Jonas, incroyablement, il a désobéi à Dieu. Il pouvait dire oui ou non. On voit plus tard dans l'histoire qu'il a fini par dire oui. Et puis le message qu'il avait, que Dieu voulait qu'il dise, il dit « Va à Ninive », puis la deuxième fois il obéit. Dans 40 jours, Ninive va être détruite. La parole de Dieu le dit. Dans 40 jours, Ninive va être détruite. Faire une histoire courte. Est-ce que c'est arrivé là? C'est sûr qu'il a été plus tard, Ninive a été... Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit tantôt que bon, je ferais lire à ceux qu'il y en a qui commencent à s'endormir. Je m'excuse là, si je vous endors. Mais il fait chaud. Mais c'est sûr que là, à 3h moins 10, on commence à avoir notre journée dans le corps. Je m'excuse si je vous endors, mais je ne veux pas viser personne, sauf que je ne sévirai pas. Mais Ninive n'a pas été détruite. Pourquoi? On le voit dans le passage. Parce qu'ils se sont repentis. Ils ont choisi de croire le message. Puis ils se sont repentis. On a le libre choix. On va aller maintenant dans Romains. On va aller dans l'évangile même qu'on prêche. Puis l'apôtre Paul pose une question. Pourquoi les Juifs ne sont pas sauvés? Pourquoi les Juifs ne sont pas sauvés? Pourquoi il y en a qui sont sauvés? Pourquoi il y en a qui ne sont pas sauvés? Verset 32. Chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils ne voulaient pas choisir la voie que de Dieu. Ils ne voulaient pas venir à Dieu par la foi. C'est la foi le moyen que Dieu a donné. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas été choisi à être sauvé, là. C'est parce qu'il ne voulait pas aller par le moyen de Dieu pour être sauvé. Ils avaient le choix, même là. Je vais essayer de finir pour 3h avec un dernier passage. J'aurais pu parler du passage dans Marc 15 où ce que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si on a le choix de vouloir sauver notre vie ou de la perdre pour le Seigneur, c'est notre choix. On est devant ce choix-là, même aujourd'hui, c'est valable. La dispensation du libre arbitre est encore bon aujourd'hui. On a encore le choix. Mais ça va continuer même dans le dernier livre de la Bible, au dernier chapitre, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, c'est notre choix ça, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement ou dans d'autres traductions, librement. On est libre. On est libre. Ce que vous voulez, vous avez, le Seigneur, il a dispensé des responsabilités à l'homme et nous devons choisir. Apocalypse 22, 17. Si vous voulez vous abreuver à l'eau de la vie, vous pouvez. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, vous pouvez choisir de le faire. Alors, quand vous allez regarder en étudiant les dispensations de la Bible, peut-être peut être un aide pour faire ressortir ce que le Seigneur veut dans nos vies. Une nouvelle responsabilité qui est dispensée par Dieu à l'homme. L'échec de l'homme, ça, vous allez avoir ça dans tout, comme ça a été mentionné, dans toutes les dispensations. Vous allez voir que l'homme, infailliblement, il va faillir. Ensuite, vient le jugement de Dieu. Mais, ça ne finit pas là. Il va toujours y avoir la grâce de Dieu pour continuer. Alors que ce soit un encouragement pour nous de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour apprendre à connaître notre grand Dieu et que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Oui, Seigneur, merci encore pour ta parole. Combien nous sommes émerveillés de ta grandeur. On voit ton plan, ton dessein éternel est immuable. Tu vas accomplir parfaitement ce que tu as résolu dans ton cœur. Et Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants parce que sans toi, nous ne sommes rien. Et c'est par ta grâce seule que nous sommes aujourd'hui en ta présence et que nous avons cette espérance d'être transformés à ton image et pour toujours avec toi. Et on te rend grâce pour ce que tu fais depuis l'éternité et pour l'éternité future. En Jésus-Christ. Amen.
Amen.